Bonjour mes frères et sœurs, je voudrais vous apporter un message qui vous donne de la puissance dans votre vie, parce que nous en avons besoin. J'arrête le ventilateur parce que ça fait un bruit terrible. Vous avez été choisi par notre Père Céleste. Vous avez été choisi par votre Père Céleste pour venir ici-bas, à cette époque cruciale, du fait de votre bravoure spirituelle dans votre préexistence terrestre. C'est-à-dire que, avant de venir sur Terre, vous étiez des esprits, et vous étiez des esprits braves, courageux. Et vous avez choisi avec Dieu, et Dieu vous a autorisé à venir sur cette Terre pour y faire ce que vous avez à y faire dans cette période si difficile. Il est temps de revêtir les armes de Dieu afin de prendre part à l'œuvre la plus importante ici-bas. On ne joue pas aux chrétiens. Il est temps de lancer notre faucille, comme dit la Bible, et de moissonner avec toute notre puissance, toute la puissance du Saint-Esprit, mais aussi de notre esprit et de nos forces. Je pense que vous vous rendez compte que les forces du mal n'ont jamais fait rage plus énergiquement qu'aujourd'hui. Et en tant que serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas être des endormis pendant que cette bataille fait rage. Et nous ne pouvons pas nous permettre le luxe non plus de nous chicaner entre nous pour des broutilles. Malheureusement, dans les églises, on aime bien se battre à coups de chiffon, avec des petites doctrines bizarres. Vous savez, mes frères et sœurs, alors qu'aucun prophète de l'époque ne parlait de cela dans les années 60, j'ai annoncé le danger de l'islamisation fanatique. Et alors, j'ai passé auprès des chrétiens pour un sale raciste. Dieu sait si je ne suis pas raciste. Mais regardez l'histoire. Regardez l'histoire. Dieu a parlé et créé avec l'homme une alliance sacrée au travers de Moïse. Et puis Jésus est venu et il a crucifié la loi. Il l'a crucifié. Il l'a mise en croix. On va lire un texte dans Colossiens 2, chapitre 13, verset 15. Seigneur, je te prie que ta parole perce le cœur de chacun et de chacune, pour que chacun et chacune se réveille et fasse ce qu'il a à faire et soit ce qu'il a à être au nom de Jésus. Amen. Colossiens 2, 13. Je lis. C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, avec Jésus, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant sur la croix, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a cloué à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet de ceci, au sujet... Non. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé un acte. Un acte, c'est, si vous regardez le dictionnaire, il y a plusieurs significations. Et là, c'est la signification suivante. Un acte, c'est une pièce écrite, une obligation. On parle, par exemple, d'acte, on parle de la rédaction d'un acte notarié, ou on parle d'un acte par un huissier. L'acte que Jésus a détruit était un acte officiel, un écrit officiel, divin, que Dieu avait donné à Moïse, Jésus est venu et il l'a détruit. Et sur cet acte officiel et divin étaient écrits des ordonnances qui nous condamnaient. Quelles ordonnances ? Les 10 commandements d'abord. Parce qu'on ne peut pas y obéir à tous. Et si il suffit qu'on désobéisse à un pour que nous soyons tenus pour coupables, comme si on avait désobéi à tous. Et puis ensuite, toutes les lois qu'on trouve dans l'ancienne alliance, il a détruit ça. Pourquoi ces lois nous condamnaient ? Parce que la désobéissance à une seule de ces lois nous condamnait. Je ne l'invente pas. Jacques chapitre 2, versets 10 à 11. Je lis. Quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas l'adultère » a dit aussi « tu ne tueras pas ». Or, si tu ne commets pas l'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Vous comprenez ? Nous sommes tous des transgresseurs de la loi, parce que nous avons tous péché. Et la loi nous condamne, parce que sans la loi, il n'y a pas de transgression de la loi. Et s'il n'y a pas de transgression de la loi, il n'y a pas de péché. Nous sommes tous incapables d'obéir à tous les commandements. Aucun homme, aucune femme n'est pur, aucun. Et dans Romains chapitre 6, verset 23, regardez ce qui est écrit. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La loi de Moïse était un acte officiel donné par Dieu qui nous enfermait dans le péché. Parce que, comme je vous le disais, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression de la loi. S'il n'y a pas une loi qui dit « tu ne voleras pas », voler n'est pas un péché aux yeux de Dieu, puisqu'il n'a pas dit « tu ne voleras pas ». Mais si Dieu dit « tu ne voleras pas », eh bien si tu voles, tu as transgressé la loi et tu es pécheur. Et nous sommes tous pécheurs, pas parce qu'on a volé forcément, mais on a tous désobéi à au moins un commandement dans notre vie. Ce qui nous rend coupables de tout. C'est-à-dire que si tu transgresses la loi, le salaire du péché, c'est la mort. C'est Dieu qui dit ça, c'est pas Michel Janton, c'est Dieu qui dit ça. Et s'il n'y a pas de transgression de loi, il n'y a pas de péché. Donc la loi nous conduit au péché, nous enferme là-dedans. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire ? Il a porté nos péchés sur lui-même, il est mort en tant que sacrifice, afin d'offrir à Dieu un sacrifice agréable pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons purs de tous les péchés que nous avons commis devant Dieu le Père, notre Créateur. Et il a détruit l'acte qui contenait les ordonnances qui nous condamnaient, c'est-à-dire il a détruit la loi de Moïse. Maintenant, nous sommes graciés. Maintenant, nous sommes justifiés. Nous sommes devenus les serviteurs de Dieu et nous portons le fruit de la sainteté qui est en Jésus-Christ. Il l'a mis sur notre compte. Et nous avons pour fin la vie éternelle. Voilà ce que la Bible nous dit. Si seulement nous avons foi en Jésus-Christ, si seulement nous avons foi en ce qu'il a fait à la croix. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que, 600 ans après la venue de Jésus, il y a un monsieur qui est venu avec une parole antichrist, c'est-à-dire une parole qui annule ce que Christ a fait sur la croix, une parole qui nie ce que Jésus a fait sur la croix, une parole même qui nie que Jésus soit mort sur la croix. Oh, mes frères et sœurs, c'est pas un détail, c'est épouvantable, car si Christ n'est pas mort à la croix, comme le prétend ce monsieur et son bouquin, nous sommes tous perdus. Car nous sommes encore dans nos péchés, nous sommes encore dans la condamnation. Je lis 1 Corinthiens 15, verset 1. Voilà ce qui est dit là. Je vous rappelle, frères, l'évangile, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et dans lequel vous avez persévéré. par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Si tu ne crois pas à ce que la Bible dit, tu crois en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon l'Écriture, c'est-à-dire selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, ce qui avait été prophétisé, ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils ont annoncé sa mort et sa résurrection. C'est clair dans l'Ancien Testament. Donc, je répète, vous êtes sauvés, je vous enseignais avant tout, comme je vous l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'était écrit, c'était prononcé par les prophètes, c'était dit, c'était écrit et c'est toujours écrit. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, c'est Paul qui parle, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Avant d'être apôtre, il était persécuteur de l'Église de Dieu. C'est un fanatique qui massacrait les chrétiens. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et par sa grâce envers moi, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Je travaillais plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru, à savoir que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification et qu'il est véritablement vivant encore aujourd'hui. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous, des chrétiens de Corinthe, comment se fait-il que parmi vous, il y en ait qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité non plus. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, notre foi est vaine. Il se trouve même, Paul dit, que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà ce que Paul croyait, et voilà ce que moi je crois, voilà ce que Paul enseignait, et voilà ce que moi j'enseigne. Alors dire que ce monsieur est monothéiste, le monsieur qui est venu 600 ans après, c'est vrai, il est monothéiste, mais son Dieu n'est pas le mien. Puisque son Dieu nie la mort et la résurrection de Jésus, et son Dieu cherche à nous replacer sous une loi pire que celle de Moïse. Alors que dire, que faire? Eh bien, nous devons être des disciples de Jésus. Il faut être poli, il faut être tolérant, il faut être correct, mais il faut être ferme. Ça nous vaudra la persécution, mes frères et sœurs, mais tant pis. Nous ne renierons jamais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, selon Romains 4, 25. Nous ne renierons jamais cela. Mes frères et sœurs, ne soyez pas timorés dans l'expression de votre foi. Vous faites partie des hommes et des femmes les meilleurs et les plus vaillants qui soient jamais venus sur la terre. Les démons savent que vous êtes ce que vous étiez dans votre vie avant de venir sur terre. Ils savent. Et ils comprennent très bien l'œuvre qui doit être accomplie avant le retour de Jésus. Et les démons le savent. On dirait qu'il n'y a que les chrétiens qui ne savent pas. Qui se chipotent. Et après des millénaires d'entraînement dans l'art de la fourberie, l'adversaire est très expérimenté aujourd'hui et il est incorrigible, il ne changera pas. Mais grâce à Dieu, la prêtrise que nous détenons est nettement plus forte que les ruses du diable. Alors faites du repentir quotidien dans l'humilité une partie intégrante de votre vie. Au point que vous allez exercer la prêtrise avec plus de puissance. C'est la seule manière d'assurer la sécurité de votre famille. C'est la seule manière d'assurer votre sécurité dans les jours difficiles qui viennent. Parce que dans les années 70, quand j'annonçais ces choses et que tout le monde se moquait de moi et qu'on disait que j'étais un raciste, eh bien maintenant, ils disent à peu près tous la même chose. Ah oui, c'est quand même terrible, c'est affreux, gna gna gna. Et aujourd'hui, quand je dis qu'il va y avoir des choses terribles qui vont se produire, ils disent « Oh mais non, le Seigneur Jésus est bon, il nous protège, il nous protège. » Oui, mais si nous sommes à notre place et si nous faisons ce que nous avons à faire. Le Seigneur Jésus a besoin d'hommes et de femmes altruistes qui font passer les besoins des autres avant leurs propres besoins. Jésus a besoin de disciples qui respectent leurs alliances avec lui. Jésus a besoin d'hommes et de femmes qui sont intègres et qui ne font pas de compromis. Il a besoin de disciples purs, au cœur pur, à l'esprit pur, aux mains pures et bien disposées. Mes frères et sœurs, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que vous deveniez cette sorte de disciple. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que vous ayez le courage de l'humilité, de vous repentir chaque jour et que vous appreniez le pouvoir de la prêtrise qui est la vôtre. Je vous bénis pour que vous communiquiez l'amour à votre famille et à toutes les personnes que vous rencontrez, que vous connaissez. L'amour. Je vous bénis pour que vous fassiez mieux. Je vous bénis pour que vous soyez meilleur. Je vous bénis pour qu'en faisant un effort, l'effort que je vous demande de faire au nom du Seigneur, eh bien vous viviez personnellement de grands miracles. Ce que je dis là, je le dis avec tout mon cœur, mais je dis que vraiment c'est le Seigneur qui m'a inspiré. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide. Prenez conscience de tout cela. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir.